Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme, je vous parle en ce 17 décembre, quelques jours du début des temps des fêtes. Noël qui approche en grand pas. Je ne sais pas si votre magasinage du temps des fêtes se déroule bien, je l'espère. S'il y en a un qui a bien réussi son magasinage du temps des fêtes, c'est Bill Guérin qui a fait une grosse acquisition. On a cherché le défenseur Quinn Hughes des Canucks de Vancouver. On va parler de ça aujourd'hui au balado de la Ligue nationale de hockey. On va aussi parler hier du cadeau que les Canadiens, entre autres Jacob Fowler, a donné aux Flyers de Philadelphie dans la défaite de 4-1. Donc, on va revenir sur les derniers jours chez le tricolore. Et bien, ça va être après Noël, c'est le 31 décembre. Oui, le réveillon du jour de l'an, la nouvelle année, mais surtout la journée où Hockey Canada devrait dévoiler le nom des équipes, des joueurs qui vont être sur leur équipe pour les Jeux olympiques. Donc aujourd'hui, on va y aller avec nos prédictions pour tout ça parce que c'est notre dernier balado avec un de mes deux collègues que je vous présente. Je présente maintenant toujours Guillaume Lepage premier. Salut Guillaume.
Salut Nick.
Salut Guillaume et salut JF. Monsieur Chaumont, comment ça va?
Bon matin, ça va très bien.
Donc, dernier balado avant le temps des fêtes, JF. Pour toi, JF, tu vas être en congé la semaine prochaine. Mais Guillaume, toi et moi, on va vous offrir un spécial championnat mondial de hockey junior qu'on va enregistrer, qui va être disponible dans le fond lundi. Là, donc, toi, moi et Jonathan Fillon, collègue de Suisse qui va joindre à nous. On va parler de tout ça, tout ce qui s'en vient pour le classique tournoi du temps des fêtes. Ça va être disponible lundi. Donc, si vous nous écoutez, si vous voulez nous trouver, on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de balado à peu près qui peuvent exister. Faites une recherche, la tasse de café LNH. Et en vidéo sur YouTube, allez sur la page de la NHL podcast et vous avez la tasse de café qui va être là. Sinon, ben, une bonne vieille recherche, comme je disais, la tasse de café LNH. Les gars, on ne perd pas de temps, on y va. On revient sur ce qui s'est passé hier au Centre Bell. Défaite des Canadiens 4-1 contre les Flyers de Philadelphie qui, disons-le, ont joué un match sur la route, parfait. Le type de match que tu dois jouer sur la route quand t'es pas l'équipe la plus talentueuse du circuit.
Oui, mais Sean Couturier avait donné le ton en matinée en disant que la grande différence cette saison avec les Flyers de Rick Tocchet, c'était justement une équipe plus responsable, une équipe qui joue mieux défensivement, qui calcule mieux les risques. Ça ressemblait à des mots de Martin Saint-Louis. Donc, on sacrifie un petit peu d'offensive pour une meilleure défensive. Ça se voit également. L'an dernier, les Flyers étaient 28e au classement général pour les buts accordés. Cette saison, ils sont dans le top 10. Donc, c'est une équipe qui joue bien. Dan Vladar a connu un bon match également. Oui, classique match sur la route pour les Flyers, mais du côté du CH, il y a eu quelques bourdes qui ont fait mal. Mm-hmm. Tu l'as dit dans ton introduction. Martin Saint-Louis a parlé d'un petit gratis, le but donné par Jacob Fowler, le troisième but des Flyers avec 20 secondes à jouer en deuxième période. Ça a quand même coupé l'élan. Oui, il y a eu une tentative de remonter. Il y a eu des attaques en troisième période, mais non, jamais le CH a passé proche. Guillaume respirait bien sur la passerelle de presse. Pour une fois, c'est un texte au buzzer, pas trop difficile, où tu savais que le résultat ne changerait pas.
C'est vrai que tu en as eu quelques-uns cette année, Guillaume, au niveau du buzzer.
Ça, ça fait partie des risques du métier.
Ouais. Mais c'est vrai qu'hier, tu parles de ce but-là qui a été marqué par Bobby Brink, qui a un peu cassé les jambes, cassé le rythme. Le premier aussi des Flyers, Texier venait juste de marquer aussi. Disons-le, le Canadien, hier, tu sentais, on dirait qu'il y avait un manque d'énergie, un manque de constance. Bon, ça, c'est ce qu'on répète à tous les épisodes, j'ai l'impression. Mais l'absence de Mike Matheson, on a vu hier à quel point ce gars-là est important. Parce que quand il n'est pas là, on doit le remplacer en équipe, là, en groupe. Là. Moi, voir Lane Hudson en désavantage numérique, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'est la meilleure manière de l'utiliser. Pas qu'il est pas capable, là, mais je suis pas sûr que c'est la meilleure manière de l'utiliser. Bon, au moins, dans le cas de Matheson, l'absence devrait être courte, mais ça s'ajoute à tous les autres blessés chez les tricolores. Mais tu vois, puis je pense qu'hier, tout le monde en a parlé, tu vois que l'absence de Matheson, le poids que ça a et à quel point ben, on a peut-être bien fait de le remettre sous contrat déjà, dans son cas, il y a quelques semaines.
Ben, c'est surtout l'impact que ça a en temps normal, mais là, on a déjà des blessés à cette ligne bleue-là. Mm-hmm, on devait déjà se fier à ton top 3 derrière, c'est Struble, Jack High, puis un nouveau venu, Engstrom. Carrier ne connaît pas la saison de sa carrière, donc on se retrouve avec Dobson et Hudson comme défenseurs de pointe qui doivent manger des minutes. Je pense que Kotsun l'a bien fait hier. Puis je pense que dans le vestiaire, on disait il s'en voulait un peu pour le but en fin de première période. Puis après ça, dans les deux dernières périodes, il en a donné beaucoup. En troisième, c'était pas mal lui qui voulait aller le chercher, là, ce deuxième but-là. Il générait des choses. Il montait la rondelle d'un bout à l'autre. Donc, il est capable de le faire. Puis comme Jeff disait hier sur la passerelle de presse, je pense que ça en dit plus long quand on voit Hudson sur le désavantage numérique, sur l'incapacité peut-être d'un Harbour Jacky de ouais. prendre ses responsabilités-là puis de gagner cette confiance-là dans une situation comme ça. Parce que là, tu perds
ça
un gros morceau.
Ça devrait être son rôle, là, c'est ça.
Ben, c'est ça, un gros bonhomme qui sacrifie devant des lancers, qui joue un peu plus physique. Ça devrait, en théorie, être le rôle qu'il joue, mais en ce moment, il peut se mettre sa confiance probablement. Puis Martin Saint-Louis a prouvé à plusieurs reprises que lui-même n'a pas vraiment confiance en son défenseur numéro 6. Donc, on va souhaiter aux Canadiens que l'absence de Matheson ne se prolonge pas parce qu'en ce moment, c'est une défensive qui compte sur très peu d'éléments stables.
Guillaume parle d'Harbour Jacky, mais c'est aussi une illustration qu'on ne fait pas plus confiance à Jaden Struble en infériorité numérique. Les deux défenseurs qui, techniquement, seraient les 6 et 7 de l'équipe dans un monde idéal où il n'y a pas de blessés, où Kaden Gooley est en santé. Mais ces deux joueurs-là, s'ils veulent un jour obtenir un poste vraiment régulier dans la Ligue nationale, ils n'auront pas le choix de jouer en désavantage numérique. Mais il y en a eu quelques expériences, puis ils n'ont jamais démontré qu'ils avaient le coffre d'outils pour y arriver, autant Jacky que Struble. Et Lane Hudson, la dernière fois qu'il avait joué en désavantage numérique, c'était même pas à Boston University, c'était avec le programme américain des moins de 18 ans. Donc, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu cette responsabilité-là. Mais tu sais, Hudson, c'est un joueur, oui, il n'a pas le profil idéal pour jouer en désavantage numérique, mais c'est un jeune homme tellement intelligent qui va trouver une façon d'être quand même efficace.
Oui, c'est ça. Les habiletés sont là.
Il est présent
là,
dans
ça,
chacun des rencontres. Ils font des rencontres uniquement pour le désavantage numérique. Puis Hudson se pointe le bout du nez toujours. Il est présent. C'est le type de petit gars, tu lui dirais, ce soir, tu vas être gardien de but pour aider l'équipe. Il le ferait. T'sais, il aime tellement le hockey, il en mange tellement. On ne remettra pas en doute sa volonté. Mais hier, ça fait en sorte aussi que tu lui donnes 27 minutes de temps de jeu. C'est les minutes Mike Matheson, 27 minutes. Dans une semaine où tu dois jouer 4 matchs, il y a un autre match jeudi, il y en a un autre samedi, il y en a un autre dimanche. Il y a beau peut-être avoir 3 poumons lui aussi comme Mike Matheson. C'est un jeu qui demeure risqué quand tu commences à lui donner des minutes en désavantage numérique.
Ouais, c'est clair que c'est ça que je disais tantôt, c'est pas là que je veux le voir dans le cas. Puis tu regardes le nombre de matchs d'expérience, de saisons d'expérience hier pour cette brigade-là des Canadiens, c'est jeune pas mal, là. C'est très jeune, là. Le plus expérimenté, c'est Carrier. C'est Dobson reste quand même, tu sais, pas 30 ans, là, Dobson, là. Oui, il a une belle carrière, somme toute, beaucoup de matchs, mais le reste, c'est des gars qui sont dans la Ligue nationale depuis pas longtemps, Engstrom en particulier. C'est pas surprenant. Cette défaite-là hier n'est pas surprenante. On aurait aimé peut-être en voir un peu plus d'attaque. Encore là, il manque quelques éléments là aussi. Peut-être un petit mot là, avant de passer au sujet de l'âge chez les Canadiens. Sur Alex Tessier, hier, troisième but, je pense à 6 points en 11 matchs là, depuis qu'il est arrivé à Montréal. Sentez-vous que déjà la confiance commence à s'installer pour notre ami français?
Ouais, ben c'est dans les jours qui ont suivi son arrivée à Montréal, je pense que je m'étais entretenu avec lui après un match, puis il disait je me sens bien à l'extérieur de la patinoire, puis quand je me sens bien à l'extérieur de la patinoire, c'est ce qui me permet de bien jouer là, tu sais. Puis quand on y avait demandé, je pense, qu'est-ce qui fait la différence avec ce que tu vivais à Saint-Louis, il dit ben je joue des matchs. c'était aussi simple que ça. Donc là, on lui fait jouer des matchs. Puis, tu sais, hier, c'était le meilleur trio. Là, son trio avec Jake Evans, Josh Anderson a probablement obtenu le plus de chances de marquer dans cette rencontre-là. C'est un joueur qui est dynamique. On le voit par son coup de patin. Tu sais, j'ai vu sur les réseaux sociaux des comparaisons avec un Paul Byron, là, tu sais, en termes de rapidité, puis de gars qui peut jouer un rôle offensif. Puis peut-être avoir un impact sur un troisième, quatrième trio aussi. Je dis pas que c'est le même genre de joueur, là, mais j'aime quand même cette comparaison-là. C'est un peu un couteau suisse en ce moment, un couteau français pour...
Un couteau de Grenoblois, oui.
Pour les Canadiens. Donc, c'est bien de voir un joueur s'épanouir dans le marché de Montréal parce que.
Saisir sa chance, surtout qu'on parle de Strouble puis de Jack Hyde qui ne saisissent pas leur chance. Lui, il est en train de le faire.
Oui, oui. Puis c'est tout à son honneur. Puis c'est un beau pari que Ken Hughes prenait. Ça coûtait absolument rien. Puis en ce moment, ben, Texier est en train de lui donner raison d'avoir pris cette décision-là. Donc, c'est très encourageant pour la suite.
Sens-tu que Martin Saint-Louis a davantage confiance en lui? Il me semble que, tu sais, au début, il ne connaissait pas, là, ou à peu près pas. Là, on l'a senti que on va voir ce qu'on va faire avec ça, puis on va essayer de se débrouiller. Mais finalement, on dirait justement que l'émission, l'utilisation, puis la communication entre les deux, ça s'est rapidement installé.
Oui, mais Texier va lui donner aussi les raisons de lui faire confiance.
Oui,
contre les Flyers, à mon humble avis, il était le meilleur attaquant du côté du CH. Puis je trouve que Jake Evans a un petit peu plus de kick depuis qu'il joue justement avec Alexandre Texier. Evans, Josh Anderson, Texier forment un bon trio. Puis la crainte qu'on disait justement ici à ce balado, c'était est-ce que Texier est uniquement un joueur de top 6? Est-ce qu'il doit absolument trouver une place au sein de l'un des deux premiers trios pour justement s'épanouir? On l'a vu à quelques reprises au sein d'un trio plus offensif. Mais dernièrement, il joue avec Evans et Anderson et il fait le boulot. C'est un gars qui patine bien, qui est quand même responsable défensivement. Guillaume en parlait aussi. Il a énormément d'habileté, mais son tir aussi hier, c'était un tir des poignets des ligues majeures pour déjouer Dan Vladar. Donc, c'est un pari qui est très intéressant. Puis le clin d'œil à Paul Byron, bien Byron aussi, ça avait été une trouvaille au balotage. Texier, ultimement, les Blues l'ont libéré pour ensuite paraffer un contrat avec le Canadien, mais personne n'avait levé la main pour le réclamer au balotage à un salaire plus élevé. Donc, le facteur risque était très faible dans le cas d'Alexandre Texier. Puis pour l'instant, bien, le CH en récolte les fruits.
Bon, parlons de ce qui s'est passé hier. Le sujet, bien évidemment, c'était peut-être pas le match. C'est la décision des Canadiens d'envoyer Samuel Montembeault chez le Rocket de Laval pour des fins de conditionnement. JF, explique-nous donc un peu, là, c'est quoi des fins de conditionnement pour ceux qui sont fins de conditionnement, c'est un anglicisme, là, mais pour remise en forme, ça implique quoi exactement? Là?
La première chose importante à comprendre, c'est que le joueur doit accepter. Si le joueur dit non, le projet tombe à l'eau. Puis un projet de remise en forme, ce n'est pas uniquement en cas d'une blessure où un gars n'a pas joué depuis 4 mois puis veut jouer quelques matchs du côté de la Ligue américaine pour regagner la forme. Ça peut être aussi un cas d'un gars qui n'est pas assez utilisé dernièrement puis qui a besoin d'un petit peu de millage. C'est la carte que le CH joue avec Samuel Montembeault. Il n'avait pas obtenu un départ depuis le 2 décembre, si ma mémoire est bonne, dans le cas de Montembeault. Donc, ça faisait quand même un petit moment. On gardait 3 gardiens du côté de Montréal. Le maximum de jours permis, c'est 14 jours. Donc, on parle de 2 semaines. Du côté de Martin Saint-Louis, il a déjà encerclé une date. Montembeault va revenir avec la grande équipe du côté de Pittsburgh dimanche. Donc, Cleveland, pourquoi je parle de Cleveland? C'est que le Rocket jouera son prochain match contre Cleveland jeudi soir. Donc, Cleveland, Pittsburgh, ça se voyage quand même bien. Les 2 prochains matchs du Rocket, justement, ce seront contre les Monsters de Cleveland. Donc, c'est facile point de vue logistique. Puis hier, on avait eu un indice à l'entrée des journalistes dans le vestiaire. Il y avait 6-7 bâtons de hockey qui traînaient contre la porte. Le premier réflexe a été de se dire c'est peut-être du nouvel équipement pour Jacob Fowler, qui n'est pas depuis très longtemps dans l'environnement montréalais. Mais c'était finalement le contraire. C'était pour Samuel Montembeault qui partait de l'autre côté. Donc, il y a eu une discussion. Kent Hughes, Jeff Gorton, Martin Saint-Louis ont parlé à Montembeault. Ils lui ont vendu le projet d'aller justement bloquer des rondelles, mais dans la Ligue américaine. Puis le souhait, c'est de reconstruire Samuel Montembeault, de le revoir à Montréal et se croiser les doigts pour avoir le gardien de la saison 24-25, pas celui de la saison 25-26.
On va le rappeler de Cleveland. Cleveland, tu disais le match est à samedi, mais bon, je ne jouera pas dimanche, logiquement. Tu joues pas. S'il joue les 2 matchs dans la Ligue américaine, je ne jouera pas dans la LNH par la suite le dimanche. Mais.
Ben, il peut jouer également uniquement jeudi, puis peut-être venir jouer.
Ouais, à ce moment-là, mais.
Venir jouer dimanche côté de Pittsburgh. Je pense qu'on voulait surtout, Nick, s'éloigner de la bête du Centre Bell où. Tu sais, l'erreur de Jacob Fowler, si Samuel Montembeault donne le même type de but, là, t'en as des moqueries jusqu'à la fin du match. Ouais. Fowler, on lui a pardonné parce que c'est la nouvelle coqueluche, c'est le prochain sauveur du côté des partisans montréalais. Donc, on a passé l'éponge plus rapidement. Puis même, tu sais, c'est pas un hasard non plus, là. Laval joue ses deux prochains matchs à Cleveland, c'est plus loin. Il va repartir dans un anonymat relatif, le plus tranquille. Donc, yes, je suis persuadé que ce choix de ce match-là a pesé quand même lourd dans la balance.
C'était plus facile à être dans l'anonymat quand le club école était à St. John's, à Terre-Neuve. Ouais. Là, tu étais vraiment sûr de ne pas être dérangé. Mais bon, si Samuel Montembeau fait bien, peu importe, vous vous attendez à quoi? Quand vous regardez les performances de Jacob Fowler depuis qu'il est à Montréal, est-ce que selon vous, c'est un gardien de la Ligue nationale de hockey? Est-ce qu'on est prêt à tasser un Montembeau ou un Fowler, ou un Dobesch plutôt, pour le retourner dans la Ligue américaine dans le cas de Dobesch, pour Fowler, selon ce que vous avez vu?
Ben non, je pense pas que le plan, en fait, s'il y avait un plan, je pense pas que c'était de garder Jacob Fowler à Montréal jusqu'à la fin de la saison, là, à moins qu'il a aligné 6 victoires consécutives puis qu'il était parti sur une lancée, là. Mais en ce moment, c'est pas ce qui est arrivé. Je pense qu'on se croise les doigts du côté des Canadiens que Montembeau, s'il garde les buts deux fois, retrouve sa confiance, soit en mesure de revenir aider le Canadien, tu sais, sans dire que va connaître une série de succès puis avoir des chiffres incroyables là, dès son retour. Je pense que juste le fait de gagner un match puis de réaliser, ouais, disons, d'avoir un taux d'efficacité en haut de 900, ce serait pour lui très bon mentalement, là, parce qu'en ce moment, tu sais, la dernière fois qu'on l'a vu dans le filet à Montréal, c'était en relève à Jakub Dobesch, puis ça avait été très, très difficile contre le Lightning de Tampa Bay.
Il
paraissait vraiment, c'est ça, complètement perdu, aucune confiance. Donc, c'était la décision à prendre. Et les Monsters de Cleveland, c'est la quatrième pire attaque de la Ligue américaine. Donc, théoriquement, on ne l'expose pas à trop de dangers du côté de Cleveland. Puis le Rocket connaît une très bonne saison aussi. Donc, ouais, ça va jouer structuré devant lui. Il va pouvoir faire des arrêts. Je pense que pour sa confiance, c'est ce qui va être le mieux. Puis c'est ce que les joueurs disaient dans le vestiaire des Canadiens. Quand la confiance est à terre, ben, il suffit de un ou deux matchs puis de bloquer des rondelles pour retrouver ça. Puis c'était pas l'entraînement la solution. Là, tu as beau bloquer les tirs d'Éric Raymond à répétition pendant un entraînement, si on t'envoie dans un match puis que tu cèdes sur le premier but, ben ça, on tourne à la case départ, là. Fait que je pense qu'il faut qu'il joue des matchs, puis c'est ce qu'on l'envoie faire avec la Rocket de Laval.
Là, je veux vraiment pas envoyer une flèche à Éric Raymond, là. C'est pas ça le but, mais en passant du temps que le Rocket retrouve également Marco Marciano, qui était son entraîneur des gardiens de but avec l'Armada, mm-hmm, de Blainville-Boisbriand. Il y a déjà un lien de confiance entre les deux hommes. Travailler quelques jours avec Marco, ça peut lui faire du bien. C'est une voix qui va être un petit peu différente. Donc, c'est honnêtement, c'est pas le plan qu'on avait prévu du côté des journalistes. Là. Hier, quand la nouvelle tombe sur le coup de 17 heures, un peu tout le monde se pose la question. Ouf, OK, on n'avait pas prévu ce coup-là. Mais ça peut faire du sens. Sauf que je continue de croire qu'ultimement, l'objectif, c'est de revoir le duo Jakub Dobesch, Samuel Montembeau, puis de laisser Jacob Fowler se développer tranquillement du côté du Rocket de Laval. Fowler a montré des signes d'un futur gardien de la Ligue nationale. C'est un gars qui est confiant, c'est un gars qui est calme, c'est un gars qui se place bien. Il a un désir de gagner aussi. Là. Hier, il était pas content dans le vestiaire du Canadien. Mm-hmm. Là, il y avait de la boucane qui sortait des oreilles en disant « bof, j'ai pas appris grand-chose de ce premier départ-là à Montréal, sauf que je dois bloquer plus de rondelles ». Le fameux troisième but, d'ailleurs, Herb Zurkowski de la Gazette. Tu sais, quand tu commences un scrum, une mêlée de presse, souvent tu peux y aller d'une petite tombante en plein cœur du marbre, question d'échauffer ton intervenant. La première question à Jacob Fowler, c'était « How about that third goal? » C'était « Qu'est-ce que tu penses du troisième but? »
Herb passe pas par 10 chemins.
Non, non, ultimement, la question s'en venait. Il n'y a pas de doute. Je critique c'est pas ça. Herb. C'est juste que ça partait raide. Puis la réponse a quand même été bonne en disant « J'en ai pas souvent donné des buts de la sorte et j'espère ne pas revivre ça. » Donc, mm-hmm, tu voyais qu'il n'était pas content. Mais oui, Fowler a montré des signes intéressants. Mais après, 3 départs, c'est un taux d'efficacité de 885. Il est sensiblement dans les mêmes eaux que Jakub Dobesch, qui est à 892. Montembeau est trop bas à 857, mais s'il peut redevenir moindrement le Samuel Montembeau qu'on connaît. Je ne pense pas qu'il a perdu son talent du jour au lendemain. Le plan idéal, c'est de revenir au statut du début de la saison.
Oui, exactement. Les trois prochains matchs, c'est des Canadiens, c'est des matchs contre des équipes qui sont prenables. Deux équipes fragiles, à vrai dire. Les Blackhawks jeudi, sans Connor Bedard. Puis les Pingouins, ensuite deux fois, les Pingouins qui viennent d'en perdre 6 matchs consécutifs. 4-2 d'ailleurs contre Montréal la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Je regarde un peu le Canadien. Tu sais, tu regardes, ils ont joué, ils ont perdu contre les Rangers au Madison Square Garden samedi, ce que aucune autre équipe semble faire dans la Ligue nationale cette année, perdre à New York. On a battu les puissants Oilers dimanche. Hier, sortie décevante. Oui, il y a des raisons, il y a des blessures, tout ça, mais est-ce que chez le tricolore, on se sent pas un peu trop bon quand on en gagne une? Parce que c'est vraiment des séquences de 1-2 matchs de succès, 1-2 matchs d'insuccès. Puis là, tu arrives, ces trois matchs-là qui s'en viennent contre deux adversaires prenables. Là, c'est le temps de montrer là, que tu te penses pas trop beau. Là.
Ouais, je sais pas s'il y a un peu trop de confiance dans le camp de Montréalais. Là. Ça me surprendrait compte tenu des résultats récents. Là. C'est pas une équipe qui peut, qui peut se bomber le torse puis pavaner à gauche à droite avec les résultats qu'on a eus. Mais oui, c'est de l'inconstance dans les résultats. Mais hier, ce que j'ai trouvé, c'est ça. Il y avait quand même des discussions autour de l'inconstance, mais t'sais, on dirait qu'on n'est plus habitué
à déçu. Saint-Louis n'était pas déçu de la performance.
Mais c'était une défaite normale. C'était une défaite.
Ouais.
T'sais, oui, il y a eu des erreurs, mais le hockey est un jeu d'erreurs. Mais c'était pas des erreurs comme on a vu des matchs catastrophiques où c'était flagrant et les joueurs étaient complètement déconnectés. T'sais, hier, c'était des jeux de hockey. On a fait une erreur et on l'a payé cash, comme dit Saint-Louis. Donc, je vois pas une grosse baisse dans le rendement. C'est sûr que le match contre les Oilers, c'est une grosse équipe. Puis, ils ont connu un excellent match. Puis, c'était probablement un de leurs meilleurs de la saison. Mais j'ai pas vu une grosse descente. Là. Ça n'a pas été une chute vertigineuse contre les Flyers. Ça a été un match, honnêtement, sans histoire, sans trop d'émotion. Puis,
C'est pas du but de Fowler, c'est 2-1 en fin de match. Là.
Ouais, puis tu sais, en troisième.
Le but laissé par Fowler, l'erreur, mais ouais. C'est 2-1, c'est un match qui est complètement différent. Là.
Puis le Canadien a poussé en troisième. Là, c'est 12 tirs au but contre seulement 3, je pense. Donc on a cogné à la porte. Vlador a été bon. Je pense que contre un gardien qui est moindrement moins bon, on est capable d'aller chercher ce deuxième but-là. Donc c'est un match qui était honnêtement pas très divertissant. Mais. Je crois pas qu'il y a matière, tu sais. Je pense qu'on a eu des podcasts au lendemain de défaite où on était un peu plus sur le mode panique que celle d'hier. Mm-hmm. Là, tu sais, hier, je pense que ça arrive. C'est une défaite qui arrive. Puis comme tu dis, ben, on a la chance de se reprendre contre des équipes qui sont prenables dans les prochains jours. Ça me surprendrait pas que le Canadien réponde à l'appel. Là.
Mais les deux, vous avez parlé du mot prenable. Mais honnêtement, je pense pas qu'il y a aucune équipe prenable que ça pour le CH dernièrement.
Non, ouais, pour le CH,
il y a beaucoup de... L'inconstance frappe quand même fort. Là. D'un match à l'autre, tu ne sais pas trop sur quel pied danser avec cette équipe-là. Les Blackhawks sont quand même chauffés, les Maple Leafs, pas plus tard que mardi soir. Ça a pris un but égalisateur d'Austin Matthews dans les dernières secondes.
Ouais, mais les Maple Leafs, c'est plus...
Non, je suis entièrement d'accord, c'est Guillaume, mais c'est une équipe qui joue quand même du meilleur hockey cette saison. Ouais. Peu importe la présence de Connor Bedard, les Hawks ont une meilleure structure avec Jeff Blashill. Puis ensuite, les Pingouins, je me dis que tôt ou tard, la glissade va finir par arrêter. Puis Stuart Skinner va peut-être bloquer nos rondelles avec sa nouvelle équipe. C'est pas le cas contre son ancienne équipe, contre les Oilers d'Edmonton.
Avez-vous vu la scène de Draisaitl sur son millième point? Tout le monde est en train de célébrer. T'as Skinner qui est dans le but, qui regarde, il a l'air de faire « Je peux-tu y aller ou je peux pas y aller? » Je suis avec ces gars-là
Si vous regardez, McDavid jette 2-3 regards vers Skinner. On dirait qu'il hésitait à faire comme tu veux-tu venir célébrer avec nous parce que
mais tu peux pas quand même
c'est
célébrer.
C'est un peu bizarre, ouais, c'est ça. C'est un peu bizarre, mais honnêtement, McDavid a l'air de lancer des regards à Skinner.
Ça, c'est comme quand tu croises les parents de ton ex en quelque part, puis tu avais une bonne relation avec eux, puis tu sais pas exactement comment agir. Tu leur dis bonjour, on s'ignore, on. Bon, ça ressemblait, ça ressemblait un peu à ça, mais effectivement, à court terme, Skinner n'a pas été la solution qu'on espérait chez les Pingouins. Tu me diras que Tristan Jarry non plus ne l'a
mais
pas
ça,
été.
Mais ça a quand on même va... le temps de changer. Là, Skinner, c'est un gardien, oh, ouais, je pense, cool. de séquence. S'il passe sur une bonne séquence, il peut être très bon pendant 15 matchs d'affilée. Mais il y avait d'autres images aussi qu'on a vues sur les réseaux sociaux après la rencontre. L'accolade de Connor McDavid avec Stuart Skinner, Leon Draisaitl qui a été lui parler aussi. Je pense autant que McDavid, Draisaitl, les coéquipiers des Oilers voulaient probablement un nouveau gardien, un homme de confiance différent. Mais quand tu parles d'un coéquipier qui était aimé, l'ultime bon gars, c'était probablement Stuart Skinner. Ouais. C'était un chic type. C'est le type de gardien, tu lui souhaites de se replacer, mais Edmonton, ils vont repartir avec Tristan Jarry. Ça reste quand même étrange de voir Draisaitl qui obtient son 1000e point contre Skinner là, très rapidement.
Skinner avec le casque des Oilers, puis de l'autre bord, Jarry avait encore son casque des Pingouins. C'était bizarre un peu comme match hier, mais c'était drôle à voir. En plus, c'était sur la télé nationale aux États-Unis. C'était vraiment... Le timing était parfait, mais quand vous regardez ce qu'on a payé, les Oilers pour Tristan Jarry. On a donné Brett Kulak, qui est un défenseur fiable, un Skinner qui, à mon avis, je veux dire, Jarry est au ballottage l'année dernière à la finale américaine. Il n'y a pas une grande différence entre lui et Skinner, puis un choix de deuxième ronde. D'autre part, Samuel Poulin qui est parti avec les Oilers. Je ne sais pas si les Pingouins, ça va être payant à long terme, mais au moins, on a eu un bon retour pour Tristan Jarry, ce que je ne m'attendais pas du tout il y a à peine quelques mois, là.
Bon, je pense que les deux équipes se croisent les doigts puis espèrent que le gardien qu'ils ont acquis va leur rendre de bons services.
Tu sais, si tu m'avais dit un contre un, ça aurait été correct, là, à mon avis, là.
Ouais, c'est ça. Puis le réflexe qu'on a eu, je pense qu'on se parlait quelques minutes après la transaction, moi puis Jeff. Puis Jeff dit on laisse partir Brett Kulak, qui était un des rares défenseurs dans cette brigade-là à être fiable. Puis c'est un des bons en série, honnêtement. Les derniers parcours en série des Oilers, Brett Kulak était régulier comme les aiguilles d'une horloge. Là. On savait à quoi s'attendre de sa part. Là, on est allé chercher par la suite, je pense, Spencer Stachny du côté de Nashville pour venir un peu tenter d'équilibrer les choses, mais...
C'est pas exactement Peter Winton.
Non, mais effectivement, je pense qu'il y avait beaucoup d'opérations. Il y avait des opérations comptables. C'est le salaire de Jarry à 5.4, qui est plus élevé que celui de Skinner. Puis celui que tu devais sacrifier, ça te coûte Kulak. Puis après ça, tu te retournes, tu vas chercher Spencer Stachny qui gagne un petit peu moins d'argent que Brett Kulak. Mais je crois pas que Stachny a le talent de Kulak. Écoute, Stan Bowman vient de parier, puis de parier gros. C'est aussi un gardien qui débarque à Edmonton avec un contrat pour encore deux autres saisons, dans le cas de Tristan Jarry. Tandis que Stuart Skinner, tu pouvais recommencer à zéro. Le Skinner, son contrat se termine. Puis les Pingouins ont quand même Sergei Mourachev, espoir du côté devant le filet. Donc,
Arthur Silov qui fait bien.
Silov, Mourachev, puis tu as Joel Blomqvist également comme jeune gardien. Donc, les Pingouins, si le pari Skinner ne fonctionne pas, mais Skinner devient libre comme l'air le 1er juillet. Disons que l'attachement est moins grand.
Puis il y a une équipe qui joue plus gros dans le contexte.
Ah, absolument.
Les Pingouins n'ont absolument rien à perdre avec un Skinner qui, s'il ne se reprend pas d'ici la fin de la saison, ben,
t'as rien à perdre,
Guillaume, ce qu'on avait prévu.
T'as rien à perdre, mais tu t'envoies quand même un drôle de message pour une équipe qui se battait pour une course aux séries.
Ouais.
T'as Crosby qui recommence à sourire, qui est heureux parce que finalement, on arrête de lui parler de « est-ce que tu pars pour Montréal, pour Denver, pour peu importe la ville? » Puis là, boum, ton gardien qui se relance cette saison, tu l'échanges. Mais je peux comprendre la décision.
La suite de la glissade est peut-être pas... c'est peut-être lié tout ça. Non, mais c'est peut-être lié à ça. Le message que tu envoies, c'est sûr que dans le vestiaire, probablement que ça dégonfle un peu la balloune parce que tu te dis, bon, on a un gardien qui en arrache pas mal par les temps qui courent, qui s'en vient ici, puis on donne... C'est pas comme si Jarry était incroyable non plus là, du côté de Pittsburgh, mais c'est vrai que comme message, c'est peut-être pas... Ouais, ouais. C'est juste contre le Canadien, la veille de l'échange, ça n'avait pas été très concluant, non, disons que.
Mais tu sais, à 909 de pourcentage d'arrêt cette année, avec ce que ça a de l'air pour les gardiens, là, t'es pas mal dans l'élite. C'est ça qui est spécial, là, surtout avec les Pingouins.
La transaction était probablement ficelée avant le match du CH. Là, ouais, tu reçois la confirmation à peu près vers 11h le matin. Mm-hmm. Si Stan Bowman est assis tranquille avec un petit verre de vin chez lui, à regarder Montréal-Pittsburgh, il fait « ouf, je suis pas convaincu que je vais vraiment chercher Tristan Jarry ». Mais bon, c'était un match. Tu peux avoir un mauvais match dans le corps dans une saison.
Mais la transaction qui a retenu l'attention la semaine dernière,
bien évidemment,
Quinn Hughes. Okay. On avait parlé au balado, mais je pensais pas que ça allait aller aussi vite que ça. Puis le Wild, j'ai été surpris, mais en même temps, c'est parfaitement logique. J'ai pas le choix d'applaudir Bill Guérin là-dessus qui a mis ses boulettes de viande sur la table pour réaliser cette transaction-là. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu sa conférence de presse, il est en train de faire des petites boulettes de viande pour le temps des fêtes. Mais comme on dit, c'est d'autres balles qu'il a mis sur la table pour réaliser cette transaction-là. Vous en pensez quoi, les gars? Est-ce que c'est une situation un peu gagnante-gagnante pour les Canucks et les deux équipes? Parce que pour les Canucks, ça te met au moins sur le chemin clair que tu t'en vas vers une reconstruction.
Oui, c'est une transaction. Ça fait du sens pour les deux équipes. J'ai quand même été surpris du Wild parce que, tu sais, on joue dans la section centrale. Il y a l'Avalanche et les Stars qu'il faut sortir, qu'il faut tasser du chemin une fois rendu en série. On n'a pas de garantie, en tout cas, de ce qu'on dit, que Quinn Hughes va prolonger son séjour là-bas au-delà de la prochaine saison. Donc, t'sais, en ce moment, si on regarde le portrait, on se donne 2 ans, ben en fait cette année et l'an prochain, pour peut-être tenter d'y aller jusqu'au bout. C'est quand même cher payé pour deux ans, compte tenu du fait que, en sachant que les Stars et l'Avalanche sont aussi très, très outillés pour aller loin au printemps, mais bon, si tu prends pas la chance, si tu essaies rien, ben tu sauras pas si ça va fonctionner. Ça. Donc, Bill Guérin a réussi cette transaction-là. Il y avait quelques équipes dans la course, puis il a réussi à être celui qui l'a gagné. Puis de l'autre côté, les Canucks devaient absolument ne pas rater cette transaction-là. Puis je pense qu'avec les éléments qu'on a reçus, moi, je suis un grand fan de Zeke Bouyoum depuis quelques années, puis j'aime beaucoup ce défenseur-là.
C'est pas fou de dire qu'il a les qualités pour devenir Quinn Hughes.
Non, mais tu sais, je dirais peut-être un Quinn Hughes à 85-90%. Fait que tu sais, dans quelques années, si tu retrouves un 90% du Quinn Hughes que tu avais, ben t'es pas très perdant. T'es allé chercher Marco Rossi aussi, qui est un bon joueur, qui est peut-être un peu blessé souvent. C'est peut-être le seul astérisque que j'aurais dans son
joueur.
Cas.
C'est un petit joueur. Puis... il y a Liam O'Grin aussi qui est un choix de première ronde. Il y a un choix de première ronde 2026 qui est impliqué là-dedans. C'est 4 choix de première ronde, dans le fond, là, qu'on est allé chercher en joueur ou en valeur du côté des Canucks. Mais tu sais, t'amenais le point, Guillaume, tu disais on est dans la centrale. C'est que j'ai l'impression qu'à un moment donné, dans la centrale, soit que tu pousses ou tu passeras jamais à travers. Parce que l'Avalanche, les Stars sont là pour longtemps. Les Jets, Connor Hellebuyck vient de revenir. Les Jets sont là aussi. À un moment donné, c'est soit que tu regardes la parade passer puis tu vas laisser passer les meilleures années de Kirill Kaprizov. Tu prends une décision. Là, tu viens d'aller chercher ce qui est le deuxième meilleur défenseur de la Ligue ou troisième, là, si on ajoute Zach Werenski là-dedans. Puis c'était un manque. Parce que Bouyoum, comme tu disais, de devenir ce défenseur-là, avait peut-être besoin de 2 ans, 3 ans encore. Quinn Hughes, il l'est présentement. Mm-hmm. Je pense que c'est intéressant. Je pense que Hughes aussi connaissait Bill Guérin. Il en a parlé. Il l'avait rencontré aux 4 Nations et avait bien aimé ce qu'il avait vu. Le Minnesota, c'est pas trop loin du Michigan. Les Hughes ont de la famille, même je pense qu'ils ont vécu là. Non, ils sont allés à l'Université du Michigan dans le cas de Quinn Hughes. Donc, tu sais, il y a plusieurs. Je dis pas que c'est fait là, que Hughes va signer avec le Wild du Minnesota, mais quand je regarde le marché en se disant que les Devils, à mon avis, ne seront pas capables de le mettre sous contrat dans 2 ans ou il va falloir faire toute une gymnastique salariale puis que c'est peut-être pas nécessairement logique d'aller le chercher, même si c'est le fun de mettre les 3 Hughes ensemble. le Wild n'est pas en mauvaise posture pour leur signer. Surtout que on a montré qu'on n'a pas peur de sortir beaucoup d'argent pour signer Kirill Kaprizov, qui a signé à quoi? 5 millions de moins que Connor McDavid, si je ne me trompe pas. Là,
ça, personne n'aurait parié que McDavid aurait accepté ce salaire-là.
En attendant son 25 millions dans 2 ans.
Mais si tu repars à la base, McDavid. Nick, tu sais,
ouais.
Jim Rutherford, c'est quand même un dossier étrange. Là. Jim Rutherford, c'est lui qui a dit à Patrick Alvin, « Tasse-toi, je m'en occupe. C'est moi qui vais gérer ce dossier-là, ça devient trop gros. » Grand vote de confiance envers ton DG quand t'agis de la sorte. Mais Rutherford n'avait pas non plus à offrir en cadeau Quinn Hughes aux Devils. La proposition du Wild, tu sais, Bill Guérin qui faisait ses boulettes de viande quand il reçoit le téléphone, Guérin avait lancé la proposition pour séduire Rutherford. Boyum, Rossi, un bon joueur de centre, le jeune espoir Hogren, un choix de premier tour. Les Devils, ça pouvait ressembler à quoi, si tu veux faire une comparaison? Je pense que tu aurais dû encercler le nom probablement de Shimon Nemeth. Ensuite, tu ajoutes peut-être Dawson, un Dawson Mercer, hein? Qui est l'équivalent de Marco Rossi. Tu ajoutes un espoir, tu ajoutes un choix de premier tour. Ça commence à être une facture drôlement élevée. Puis, le Wild du Minnesota, ça reste quand même... Tous ceux qui ont joué au Minnesota ont aimé. Même s'il fait froid au Minnesota, à Saint-Paul... C'est une ville de hockey, c'est un environnement de hockey. Le pari de Bill Guérin, c'est de dire ben, je vais convaincre Quinn Hughes que l'association sera pour du long terme. Mais tu vas le convaincre aussi à quel salaire. Quand à l'intérieur de ta propre équipe, tu en donnes 17 à Kirill Kaprizov, Hughes, ça sera pas ben en bas de 15 millions si c'est pas plus. Donc, ça c'est un autre casse-tête dans quelques mois. C'est pas immédiatement. Puis, mais tu parles de la bonne vieille philosophie dans une grosse transaction. Souvent, on dit que l'équipe qui gagne la transaction, c'est l'équipe qui va chercher le plus gros morceau, le meilleur joueur. En date d'aujourd'hui, le meilleur joueur, c'est Quinn Hughes. Mais Guillaume parlait de Yves Boyum. Guillaume l'a vu dans des championnats du monde junior.
Ça va être bon.
Exact. C'est vraiment la clé de cette transaction-là, c'est le jeune Boyum.
Et n'oubliez pas que le Wild n'est jamais allé loin en séries éliminatoires. Ce marché-là est dû pour un parcours en séries éliminatoires.
Oui, mais les Panthers n'avaient jamais fait de très, très long parcours avant 3 ans.
Voyons, donc,
ça peut changer.
Contre l'Avalanche en 96.
Ah oui, c'est ça, les rats,
le but de UV Group.
C'est vrai.
Mais non, mais c'est ça. Mais vraiment, à tout un coup, là, de la part du Wild, on va mettre 2 points, 2 matchs déjà pour Hughes avec le Wild. C'est bon signe. Dans les autres nouvelles, Kevin Adams, on va juste passer rapidement dessus, mais pas de surprise pour personne ici de voir Kevin Adams relever de ses fonctions-là. Peut-être le retour de Jarmo Kekalainen, mais c'est pas mal ça là, chez les Sabres qui surprend. Les gars, on va avancer tout de suite. Je passe à Équipe Canada, ce que je vous parlais au début, ce que je parlais aux amateurs, aux auditeurs en début d'émission, on y va avec nos choix. On va, vous voyez, le balado va vite parce que les Canadiens pratiquent tantôt. GF doit y aller. Donc,
oui, c'est de ma faute.
On fait ça, on avance rapidement. Le balado va être un peu plus court aujourd'hui. Les gars, Équipe Canada, ça y est, on regarde cette formation-là. Qui va être là, qui sera pas là? On part-tu d'à partir de ce qu'on avait aux Quatre Nations? On regarde ce qu'on avait aux Quatre Nations. Quand je regarde cette formation-là qu'on avait, il y a 3 joueurs tout de suite qui, à mon avis, ne seront pas là. Alex Pietrangelo, bien évidemment, est blessé. Adonil est blessé, ne sera pas là. Samuel Montembeau, avec la saison qu'il connaît, ne sera pas là. Par la suite, quand on a parlé ensemble, on a regardé tout ça, il n'y avait pas nécessairement de joueurs qui étaient une évidence qui ne seront pas là parmi ces joueurs-là. Aux Olympiques, on va avoir droit à un défenseur et ou plutôt 2 joueurs de plus, ça devrait être un attaquant et un défenseur, qu'aux Quatre Nations. Je vais vous lancer quelques questions par rapport à tout ce que vous voyez, par rapport à tout ça. Vous allez me répondre. La première, la plus importante, c'est qui vos 3 gardiens partants? Et est-ce que Jordan Binnington va encore être le partant si vous l'avez dans votre top 3?
Binnington, moi, je lui donne le bénéfice du doute pour commencer le tournoi, tout le moins, parce que cette année, je pense que je joue pas derrière une équipe toute étoile comme celle qui va à laquelle il va avoir droit aux Jeux olympiques. Donc, pour moi, oui, quand je commencerai devant le filet, mais...
Il a prouvé qu'il est un gamer.
Ben oui, c'est ça. Il l'a prouvé à plusieurs occasions quand même. Puis l'an dernier, ça a été de bonnes prestations au tournoi des Quatre Nations. Donc, pour moi, puis en plus, Doug Armstrong et son DG. Je pense qu'il y a une confiance qui est là. Ensuite de ça, Logan Thompson, je pense que là, on est rendu au point où il faut mettre peut-être les petites guerres internes de côté, là, parce que je pense qu'on avait entendu entre les branches que la raison pour laquelle il n'était pas avec l'équipe Canada l'an dernier, c'était parce qu'il s'entendait plutôt plus ou moins bien avec ses anciens coéquipiers de Vegas, l'entraîneur Bruce Cassidy et tout ça. Fait que, mais là, tu regardes son rendement cette saison, est-ce que tu vas vraiment le laisser sur son divan à regarder ce tournoi-là? Tu sais, si jamais Bennington n'est pas en mesure de te donner des bonnes prestations, ben ça paraît mal là, s'il est à la maison.
C'est clairement le meilleur gardien canadien cette année, Logan Thompson. Clairement.
Ouais, moi, je suis d'accord, Guillaume. Je pense que c'est Thompson, Bennington. Le troisième, peut-être Darcy Kuemper. Il a déjà gagné une Coupe Stanley. C'est peut-être pas le choix le plus sexy. Ça joue peut-être entre Darcy Kuemper puis Mackenzie Blackwood. Scott Wedgwood s'est blessé dernièrement, mais je serais pas surpris que ce soit Bennington, Thompson puis Kuemper.
Kuemper a l'expérience.
En tout cas, si Thompson n'est pas là, on
va comprendre.
C'est vraiment,
ne voulait vraiment pas. Écoute,
c'est non, vraiment la donné, liste noire, là. Tu sais,
c'est ça, puis c'est noir foncé, là, parce que je veux dire, c'est clairement le gardien numéro un canadien cette année. Deuxième question, à Montréal, bien évidemment, c'est ce qu'on parle énormément. Est-ce que Nick Suzuki sera de la fête? Est-ce que Nick Suzuki en a fait assez pour obtenir son poste? Surtout, je trouve qu'il partait un petit peu de la ligne extérieure, on dirait. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est le profil de type de gars que tu veux pour ton équipe olympique.
Moi, je réponds oui. Mais est-ce que ça va être suffisant pour tasser Anthony Cirelli? C'est peut-être le joueur que Suzuki doit pousser vers la porte. Cirelli, ce qu'il y a dans sa manche que Suzuki n'a pas, c'est que John Cooper le connaît par cœur. Julien Brisebois également. Et Cirelli est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale en infériorité numérique. Donc ça, c'est le gros avantage pour Anthony Cirelli. Mais Nick Suzuki, tu peux lui confier, on le sait, là, toutes les missions. De l'avantage numérique, peut jouer également en infériorité numérique, peut jouer au centre, peut jouer à l'aile, peut jouer au sein d'un premier trio, pourrait jouer au sein du quatrième trio avec cette équipe-là. Pour sa grande polyvalence, je crois que Suzuki est un choix logique.
Moi, je suis d'accord. Moi, que juste question de polyvalence par rapport à Cirelli. Cirelli est vraiment plus un joueur de rôle défensif. On l'a vu l'an dernier, je pense, aucun point au tournoi des Quatre Nations. S'il y a un blessé, si ça ne fonctionne pas, si, tu sais, Nick Suzuki peut être un joueur d'impact offensif. Là. C'est un gars d'un point par match dans la Ligue nationale.
C'est ça. Je regardais les statistiques. À quel point tu peux laisser de côté un joueur qui, depuis le 1er janvier 2025, est le troisième meilleur marqueur de la Ligue nationale de hockey chez les joueurs canadiens.
Non, c'est ça.
C'est MacKinnon, McDavid, Suzuki. Je veux dire, parce que là, on parle de d'autres noms, tout ça. On parle de Cirelli, même pas un centre numéro un. L'autre bord, t'as un gars qui fournit de bord à côté. Je trouve que, corrigez-moi, je trouve Suzuki depuis quelques matchs. Par contre, t'as peut-être un petit peu plus d'essoufflement, mais tu peux pas juger juste pour ça, là, surtout avec le nombre de blessés qu'on a chez les Canadiens. Moi, je pense que c'est un non-sens si Suzuki n'est pas là. Ça se tient pas dans l'évaluation.
Ben, surtout si on lui préfère Cirelli.
C'est ça que j'allais dire.
Parce que je pense que selon avec tous les arguments qu'on donne, c'est parce qu'on dirait qu'on a toujours peur d'avoir l'air homer quand on parle de Suzuki puis de dire qu'il y a sa place là. Mais quand tu compares les deux, honnêtement, sur papier, puis dans les missions qu'ils peuvent remplir, je pense qu'il n'y a même pas photo. Là, c'est de savoir est-ce que John Cooper va pousser pour son joueur ou, mais tu sais, à un moment donné, il faut...
Mais Cooper n'est pas fou non plus. Puis Suzuki, il le voit souvent également. Là, c'est un joueur de la même division de l'Atlantique. Quand il était de passage à Montréal, John Cooper, il y a quelques jours, une semaine peut-être, avait quand même de très bons mots pour Nick Suzuki.
Ça va être à suivre. J'ai hâte de voir parce qu'effectivement, Cooper, le gros bout du bâton, levé aux Quatre Nations. Mais tu sais, c'est le fun quand t'as gagné, hein? Tu peux te dire après ça, ben regardez, j'avais raison. Puis c'est vrai que Cirelli a bien fait son rôle dans le tournoi. Brad Marchand, trop vieux pour faire l'équipe ou il a prouvé cette année qu'il y a ce qu'il faut pour... Il est encore là, le bon vieux Brad, là?
Il y a quoi? Il y a 19 buts, le bon vieux Brad?
À peu près,
Non, il n'est pas trop vieux. Tu ne peux pas uniquement avoir des petits jeunes. Tu as besoin d'un brand marchand qui est un... Tu sais, quand tu poses la question aux joueurs aux quatre nations, là, qui sont les grands leaders au sein de cette équipe-là, après Sidney Crosby, je dirais que le nom qui revenait le plus rapidement, c'était Brad Marchand. Il y a 37 ans, Brad Marchand, il a 19 buts, 16 passes, 35 points en 31 matchs. Il a été...
Avec un club décimé. Là. C'est pas un club avec Alexander Barkov.
Il a connu un parcours en série formidable avec les Panthers. À mes yeux, il n'y a même pas d'hésitation. Brad Marchand s'en va à Milan.
Ouais, même chose. Ouais. Un petit cadenas à côté de son nom.
Good. On a parlé de jeunesse, on a parlé de vieillesse, devrais-je dire. Là, on va parler des jeunes. Est-ce qu'il y a de la place pour Connor Bedard? Est-ce qu'il y a de la place pour Maclin Celebrini? Est-ce qu'il y a de la place pour Matthew Schaefer? Un, les trois, vous voyez ça comment?
Vas-y, Guillaume.
Ben, je pense que premièrement, on va attendre de voir peut-être l'ampleur de la blessure à Connor Bedard. Je pense que tu sais, ça peut faire pencher la balance. Je ne sais pas à quel point il était à égalité avec Maclin Celebrini en ce moment. Là, tu sais, est-ce qu'on hésitait vraiment entre les deux? Est-ce que ça peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre? Peut-être, mais d'une manière ou d'une autre, moi, je pense que j'irais un peu plus du côté de Celebrini. Je pense que cette saison-ci, il a vraiment pris les Sharks. Il les a mis sur ses épaules. Je pense que ce matin, les Sharks sont dans le portrait des séries. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui avaient prévu ça dès cette année. Puis c'est vraiment, tu sais, sans dire que c'est juste lui. Il y a d'autres joueurs, mais si tu n'as pas Celebrini avec les Sharks cette année, ils ne sont même pas proches d'être dans cette position-là. Donc, j'ai une bonne confiance avec Celebrini. Il y a l'expérience du mondial au printemps dernier aussi. Il avait bâti quand même une certaine relation avec Sidney Crosby. Je pense que ça peut être bon aussi pour lui de vivre cette expérience-là puis de se préparer pour les prochains jeux. Tu sais, sans dire qu'il va avoir un rôle important, là. Ça peut être l'attaquant en trop qui peut jouer un ou deux matchs si on a besoin, mais pour lui, je pense qu'il l'a mérité. Puis du côté défensif, je pense que Matthew Schaefer, c'est... on a droit à un joueur en plus qu'aux quatre nations, donc pour moi, c'est assez simple. Si pour pallier, on a déjà parlé, mais pallier une blessure à Kyle McCarr ou à un défenseur plus offensif, ben Schaefer peut faire son entrée dans la formation assez facilement. Puis gruger beaucoup de minutes.
Tu sais, Connor Bedard a une saison extraordinaire, mais celle de Maclin Celebrini en ce moment à 51 points, Guillaume le disait, avec les Sharks qui cognent à la porte une participation aux séries. Si tu as voté demain matin pour le Hart, le joueur le plus utile à ton équipe, Celebrini a de bonnes chances. C'est incroyable de le voir aller à 19 ans. Plus 13 aussi, je crois. Il joue plus de 20 minutes par match avec les Sharks. Pour moi, Celebrini mérite sa place. Puis tu peux le faire jouer à l'aile. Je serais vraiment curieux de voir un Celebrini avec un McDavid ou un McKinnon au sein d'un même trio. Je pense que Celebrini peut remplacer Seth Jarvis ou être l'attaquant de plus que tu n'avais pas aux quatre nations. Puis à la ligne bleue, mais pourquoi pas y aller, c'était loin avec 8 défenseurs. La carte Matthew Schaefer, j'ai passé une semaine du côté de Long Island. J'ai beaucoup regardé Matthew Schaefer pendant ces 3 matchs-là des Islanders. Puis Schaefer est aussi bon offensivement que défensivement. Tu dois regarder son passeport pour te dire est-ce qu'il a vraiment 18 ans. C'est une belle maturité, c'est un bon patineur, c'est un gars qui est offensif, qui a une bonne vision du jeu. Puis Bedard, sa blessure, c'est triste. Avec moins d'une seconde à jouer dans un match contre les Blues de Saint-Louis après une mise en jeu. Mais pour les dirigeants de l'équipe canadienne, Doug Armstrong et compagnie, ça vient peut-être, entre parenthèses, faciliter ta décision. Tu n'auras pas à dire « on a ignoré Connor Bedard ». C'est peut-être une malchance qu'il sort de la formation. Mais apparemment, Pierre Lebrun de TSN, RDS, Athlétique,
partout.
rapportait que les Hawks se croisent les doigts. On sait qu'il ne jouera pas jusqu'à la fin du mois de décembre, mais peut-être un retour au jeu au mois de janvier. Donc, Bobo à l'épaule, ça, c'est assez clair que ce serait l'épaule dans son cas. Mais s'il manque les prochaines semaines. Tu dois remettre ta formation justement à la fin du mois de décembre. Ça devient peut-être plus difficile de l'inviter.
Je suis d'accord pour votre analyse de Bédard de Celebrity. J'enverrai pas Schaefer, par contre. Je prendrais juste un jeune pour la simple raison que je vois pas. C'est que Schaefer, t'as Kyle McCarr, t'as Josh Morrissey, t'as Shea Theodore qui sont là. Même moi, je mets Thomas Harley sur l'équipe. T'sais, je vois pas qui je coupe. Tu coupes Travis Sanheim, tu coupes Drew Doughty pour mettre Matthew Schaefer. Colton Parayko, moi j'ai adoré Colton Parayko, Quatre Nations. Je vois pas qui je coupe. C'est pas Colton Schaefer, mais je vois pas qui je coupe qui va m'être plus utile comme cette sixième défenseur que Schaefer.
Il y a Pietrangelo qui est plus dans ta liste.
Mais non, mais je mets Doughty. Puis je mets Harley.
T'arrives, ouais.
J'arrive à 8. Mmh. Je garde Sanheim. Vous l'avez vu, Sanheim, hier? L'avez-vous aimé? T'as un gars qui fait tout. T'as un gars qui...
C'est complètement différent.
C'est complètement différent, mais c'est pour ta troisième paire, si t'as à jouer, je préfère Sanheim dans un contexte olympique que Schaefer. C'est pas grave, là. Il va être là dans 4 ans, puis il va être là à toutes les Coupes du monde, puis il va être là. Il va être là, mais...
OK, mais moi, je vais peut-être y aller avec l'argument, tu sais, chez Theodore ou Matthew Schaefer. Si tu as peut-être à sortir un défenseur, Theodore, en grande partie, on voulait le voir jouer avec Pietrangelo. C'est un bon défenseur.
C'est vrai.
Mais peut-être que je jope pour le profil de Matthew Schaefer avant chez Theodore.
Il y a un très mauvais début de saison, mais là, c'est en train de se replacer. Mm-hmm. Ouais, peut-être que l'ouverture est là. Peut-être qu'au niveau de chez Theodore est là. Il a été blessé l'année dernière aussi là, aux Quatre Nations, donc peut-être qu'il n'a pas assez bien vendu sa salade. Ça pourrait être là, mais... Présentement, je pense que j'y vois plus avec Shea Theodore, mais effectivement, c'est la porte qu'on pourrait prendre.
Mais juste ajouter, tu sais, Thomas Harley est quand même un joueur qui a manqué
beaucoup
du
de
temps
matchs.
Avec les blessures. Ouais. Est à bon. Moins 10 présentement avec les Stars de Dallas. C'est peut-être un pensez-y bien aussi parce que, tu sais, l'an dernier, c'est lui qui a pris, je le demande guillemets, pris la place de Kyle McCarr quand il a manqué des matchs. Cet impact-là offensif est tellement dur à recréer. Qu'il faut que tu aies un as dans ta manche qui peut amener quelque chose qui se rapproche de Kyle McCarr. Puis
mais
je pense que dans ce cas-là, c'est.
Schaefer ou Evan Bouchard?
Parce
que c'était ma prochaine question.
Non, 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 non.
Attendez. Je parle juste pour la part offensif pur.
Oui, bravo pour la part offensive pure d'Evan Bouchard, mais ça s'arrête là. Moi, j'ai choisi Matthew Schaefer avant.
Il y a gros du monde au Canada anglais qui voit Bouchard sur l'équipe.
Tant mieux.
Je ne sais pas. Il y a deux choses. Là-dedans, souvent, pour ces équipes-là, on a un biais envers les jeunes joueurs, mais qui n'ont pas nécessairement l'expérience. Je reste... Mais tu sais,
mais Bouchard a l'expérience de deux finales de la Coupe Stanley, mais en finale de la Coupe Stanley contre les Panthers, il est souvent...
C'est qu'il y a trop
d'inconstance.
C'est
pas atroce, là, mais il va aller chercher un but en avantage numérique, mais il va t'en coûter un dans le même match.
L'an dernier, Bouchard a été un défenseur irréprochable jusqu'au premier match de la finale de la Coupe Stanley. Son parcours était parfait. Contre les Stars, il était très bon. Il est arrivé contre les Panthers. C'est là que ça a cassé. Mais juste pour revenir 30 secondes sur Thomas Harley, même si Guillaume, t'as raison, c'est plus et moins, il fait froid cette année qu'une bonne équipe, il n'a pas joué beaucoup. Mais l'an dernier, il ne faut pas oublier aussi que la finale contre les États-Unis, il y a Joshua Morrissey qui déclare forfait quelques heures avant le match. Mm-hmm. C'est encore Thomas Harley qui a donné du gaz à cette équipe-là. Je pense pour la façon qu'il a joué aux Quatre Nations, il va être très difficile à sortir de la formation.
Je reste un partisan de Thomas Harley. Je l'aime bien, mais j'essayais d'amener des arguments pour
rentrer
Schaefer dans la formation.
Même on n'a pas parlé, là, mais Devin Taves dans une équipe...
Il n'y a pas une très bonne saison cette année.
Moi, Devin Taves a une saison ordinaire.
C'est tellement fort le duo
Taves-McCarr. C'est parfait, c'est correct. Tu as besoin aussi d'affinité entre les joueurs pour un aussi court tournoi.
C'est ça. Si c'est pas du fait que j'ai avec Kyle McCarr cette année, Taze est probablement pas là. Mes deux dernières questions. Tom Wilson, dans l'équipe, pas dans l'équipe, et qui vous sortez? Parce que c'est un joueur de rôle, Tom Wilson. Est-ce que vous sortez un gars qui jouait à peu près le même rôle?
Mais moi, j'aurais tendance à dire oui, puis peut-être à sortir Mark Stone. Mark Stone, je le trouve quand même moins rapide. Il n'a jamais été un patineur très rapide. Ça, c'est pas, ça fait pas partie de son profil. Mais Tom Wilson y amène un élément qui est très, très, très rare. C'est que c'est un bon marqueur. C'est un gars qui frappe comme un train. Mais ah, la discipline sera quand même importante. Ça va être un facteur important avec des règlements de la Fédération internationale de hockey. Ça, c'est peut-être le côté plus surtout, difficile pour Tom Wilson.
Surtout sur la glace du Boston Garden d'Italie.
Mais oui, pauvres travailleurs du côté de Milan. Ils n'ont pas reçu le mémo pour les bonnes dimensions.
C'est parce qu'ils calculaient en chiffres romains. Ouais, à un moment donné, le nombre de XVI, de I, ça peut être mélangé un peu. Guillaume, tu vois-tu Tom Wilson?
Oui, peut-être pour un gars comme Bennett, ouais. Sam Bennett, Travis Konecny, peut-être.
Ouais, ça peut être Konecny.
Parce que ce serait mes gars sur la bulle que j'enlèverais pour Tom Wilson, mais comme GF, j'ai certaines. Tu sais, je me demande dans un match comme celui du 31 décembre, je me mélange avec le championnat junior, mais comme celui contre les États-Unis, qu'est-ce que Tom Wilson fait dans ce match-là? Parce que c'est un joueur qui est bouillant, qui des fois, les fils peuvent se toucher. Tu sais, dans un match à haute intensité, une grande rivalité comme ça, est-ce que c'en est un qui perd la tête puis qui va pogner un 5 minutes? Parce que les règles de l'IHF, t'as pas besoin de faire grand-chose pour avoir un 5 puis un 10. Là, tu sais, t'es sorti de la game. Fait que c'est juste là que je me demande, mais tu sais, c'est un gars qui est quand même de l'expérience puis qui est capable de faire la part des choses, je crois, mais il va quand même falloir qu'il soit prudent parce que des mises en échec, mettons comme celle qui a servi à Jake Evans à Montréal il y a quelques semaines, dans un contexte international. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je me demande, est-ce que t'es mieux d'avoir un joueur qui va pouvoir jouer son style à 100% ou d'avoir un Tom Wilson à qui tu vas devoir dire, hey, slack un peu, tu sais, lève le pied un petit peu. Fait que, mais avec la saison qu'il y a puis ce qu'il apporte, j'aurais tendance à dire oui, mais j'ai mes petites réserves par rapport à la discipline.
Mais la présence de Wilson, c'est peut-être uniquement pour un match. Le premier tour, là, c'est la Tchéquie, la France, la Suisse.
T'as des ressources.
Mais même là, pour un match, si jamais tu croises les États-Unis sur ton chemin, avec les deux frères, Brady puis Matthew, si Matthew est en santé, d'avoir Wilson comme possibilité, je déteste pas l'idée.
Mm-hmm. En terminant, en deux mots, le gars qui fera pas l'équipe, mais que vous auriez aimé voir. Moi, je vais vous donner mon choix, Mark Scheifele. C'est un gars qui aurait été super utile pour cette équipe-là, capable de jouer centre, on peut le mettre à l'aile, tout ça. C'est vraiment le gars qui fera pas l'équipe, mais que j'aurais vu sur cette équipe-là, qui aurait été tout un atout. Guillaume, je sais pas.
Ben, je pense choix facile, Connor Bédard. La dernière fois qu'on l'a vu dans le chandail du Canada, c'était 23 points au Mondial Junior. C'était tout un tournoi, c'est pas le même calibre, mais avec la saison qu'il connaît, ça aurait quand même pu être spectaculaire par moment. On aurait eu droit à des beaux faits saillants, je crois.
Jeff?
Écoute, j'allais répondre Connor Bédard.
Evan Bouchard, hein? Je pense que c'est ça.
Non.
Ton choix.
Non. Je veux pas passer pour celui qui couvre trop de matchs canadiens, mais regarde, je vais y aller avec Michael Matheson. On a parlé énormément de défenseurs.
Plus que Dobson?
Oui. Ouais. La façon qu'il joue cette saison. Puis Matheson, chaque fois que tu lui as donné un défi de servir d'ombrage au meilleur joueur de l'équipe adverse, allô, Connor McDavid, il n'y a pas longtemps, c'est un gars qui relève toujours les défis. Je pense qu'il n'était pas invité cet été à Calgary quand il y a eu l'espèce de camp d'entraînement qui n'était pas un camp d'entraînement sur glace. Mais
c'est pas un nom populaire.
C'est un défenseur tellement complet, intelligent, qui peut avoir de bonnes responsabilités défensives. Je vais y aller pour Michael Matheson.
Entre lui et Sanheim, je veux dire, si Sanheim est vu comme un choix pour cette équipe-là, Matheson peut s'inscrire dans cette discussion-là aussi. Allez, les gars, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui avec moi. JF, on te laisse partir pour l'entraînement des Canadiens. Les gens vont pouvoir lire tout ça sur le site de lnh.com. Guillaume, toute la semaine, on va avoir des textes de toi. Tu es revenu de Niagara Falls. Justement, tu es allé au camp d'équipe Canada. Donc
il a été aux chutes aussi.
J'espère que tu as bien
aimé. J'ai failli aller dans la maison hantée, mais je me suis retenu.
T'as-tu fait la tour qui me... Il y a une tour, je pense.
Non plus.
Monte, là,
j'ai pas fait. Je suis allé au casino, casino de Niagara Falls, mais j'ai pas joué.
T'as pas joué?
Mais j'ai vu c'était quoi.
Il a également mangé au Shoeless Joe. Quand on parle de trouvailles ontariennes, il y en a un aussi à Belleville, une des perles de l'Amérique du Nord, le Shoeless Joe. Et Guillaume et Kevin aimeraient saluer la charmante serveuse qui a lancé les factures sur la table parce que les gars avaient demandé deux factures.
C'est ça. C'est tellement proche des États-Unis que quand tu demandes de séparer les factures, c'est un enjeu. On s'en reparlera dans le podcast du Mondial Junior.
Mais je vais saluer toutes les serveuses du Québec qui là-dessus, tout le monde a compris. Un mange une salade, l'autre mange un filet mignon, tu splits ça, c'est pas compliqué. Fait qu'on va reprendre tous tes textes avec Gavin McKenna, entre autres, là, sur le site de lnh.com cette semaine. Puis notre podcast lundi prochain qui va être disponible où on va faire l'aperçu du championnat mondial junior. Les gars, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Chers éditeurs, merci aussi vous d'avoir été là et on se reparle très bientôt.